Le Space Cast
avec JF Blais et Louis Gauvin.
Radio X.
Ce show-là s'appelle le Spacecast. Et c'est dans ce show-là que, en dedans du même 20 minutes, on appelle à la broussaille et chez les pompiers.
Et les deux nous répondent.
Et les deux nous répondent.
Ce qu'on leur a demandé.
Oui, 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 exact. Et on apprend des fauves.
Ah, on apprend beaucoup de choses.
On apprend des fauves. Vous voulez informer, mesdames, messieurs. 88-670-9098. À votre tour de nous informer s'il se passe des enjeux... S'il se passe des enjeux de circulation puis tout ça, là, ça serait une bonne idée de nous en faire part. All right. Hey, dans un autre ordre d'idées complètement, j'adore ces discussions-là, des discussions que j'appelle quasiment découvertes aux mille et une questions, où on prend un professionnel de la santé ou un professionnel tout court, puis on lui garoche des questions dans tous les sens, par rapport à son domaine. Là, et c'est ce qu'on va faire au courant des prochaines minutes. Je l'ai déjà reçu dans le passé puis j'avais adoré notre discussion. Il s'agit du docteur Marc-André Doré, qui est dermatologue pour Dermago. On s'en va le rejoindre. Docteur Doré, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous allez bien?
Ben oui, vous aussi?
Oui, très, très bien. Merci beaucoup d'accepter encore une fois l'invitation. C'est vraiment apprécié.
Ben, merci à vous. Je suis prêt à me faire garrocher, comme vous dites, mille et une questions.
Bon.
Je suis prêt.
Parfait. Je commence sec avec une nouvelle qui est sortie cette semaine concernant, puis je sais que vous n'êtes pas dentiste, mais quand même, les dentistes vont avoir le droit maintenant de faire des injections de Botox.
Oui, oui, oui.
Sur le long terme, ça, les injections de Botox, l'effet sur la peau, est-ce qu'on le sait?
Oui, ben en fait, c'est une bonne question. Comme vous le savez, le Botox, évidemment, il y a plusieurs utilités dans le domaine de la santé, pas juste la dermato, mais en dermato, c'est évidemment utilisé pour l'affinement, la réduction des rides, hein, donc les plis du visage, surtout les rides d'expression. Alors déjà sur la peau, évidemment qu'il y a un effet là-dessus, mais il y a de plus en plus d'études quand même qui sortent là-dessus, comme quoi les patients qui sont traités depuis quand même très longtemps semble avoir un effet sur le collagène, hydratation de la peau. Donc, il y a quand même certains changements. C'est sûr que l'effet principal, par contre, demeure encore et toujours son effet sur les rides et le relâchement musculaire. Donc, surtout les rides du front, la glabelle entre les deux yeux, les pattes doigts, donc autour des yeux. Alors, son effet est vraiment, évidemment, très reconnu et très prisé, très recherché, disons.
Est-ce que c'est un... À partir du moment qu'on s'embarque là-dedans, on est condamné à toujours avoir des shots, hein? C'est ça?
C'est ça. C'est une question qui revient vraiment souvent, là. C'est sûr que c'est pas une condamnation, parce que vous êtes toujours libre de faire ce que vous voulez.
Moi, j'avoue.
C'est ça. C'est juste qu'effectivement, l'effet du Botox au niveau des rides n'est pas très long, là. C'est sûr, c'est toujours subjectif, mais on parle d'environ 3 à 4 mois, là. Alors, les gens me disent, ben là, si je le fais faire, je vais être pris à faire ça toute ma vie. Et la réponse est non. C'est que si après 3 à 4 mois, ben, ça retombe à la normale. Alors, c'est un peu à vous de dire, bon, ben, j'ai le goût de me réembarquer. Ou, tu sais, vous savez, il y en a beaucoup, évidemment, qui le font de façon régulière, mais il y en a aussi qui le font aux 6 mois, aux années. Bon, disons, quand ça donne, avant la période des fêtes. Mais c'est sûr que plus vous le faites longtemps, ben, plus le bénéfice est là aussi à long terme. Hein. Puis, tu sais, des fois, si on a des rides très prononcées, ben, des fois, les gens peuvent être déçus après un traitement. Il y a un résultat très souvent avec le Botox ou du moins la toxine botulinique. Là. Évidemment que les effets sont souvent très, très bons. Mais quelqu'un qui le fait plus âgé, 50, 60 ans, où les rides sont quand même très, ou même plus, là, 70. Je ne suis pas en train de dire que 50 ans, c'est vieux. Là. Mais ultimement, quand les rides sont plus profondes, c'est plus difficile des fois à aller chercher. Alors, faut dire aux patients que ça peut prendre quand même plusieurs séances. Alors, c'est toujours de... Il faut toujours que les attentes soient réalistes quand même selon chaque patient.
Okay. Moi, il y a déjà quelqu'un qui m'a dit qu'il était allé se faire des injections. Puis là, j'ai dit, ah, t'es allé te faire mettre du Botox. Puis elle m'a dit, non, c'est des neuromodulateurs.
Oui.
Y a-tu vraiment une différence entre les deux? Puis c'est quoi la différence entre les deux?
Non, en fait, c'est comme dire non, je me suis pas acheté un frigidaire, je me suis acheté un réfrigérateur.
Ah, OK. Alors, c'est bien ce que je pensais.
Oui, c'est ça. Donc, Botox, évidemment, c'est la marque. Et puis, c'est comme frigidaire, c'est comme Kleenex. Ça a tellement été populaire, puis une révolution dans le domaine que les gens ont associé le médicament avec la marque qui a été commercialisée. Là. Donc,
OK, ça pique ma curiosité. Neuromodulateur. Donc, est-ce que le Botox en tant que tel a un effet... sur le cerveau? C'est neuro qui bug dans mon esprit?
Non, c'est vraiment le lien entre la cellule nerveuse et le muscle. Okay. Alors, ça va vraiment empêcher l'action là, de la molécule qui joue là et puis qui va contracter le muscle au final. Donc, ça va empêcher le muscle de se contracter. Et c'est cet empêchement-là ou cette relaxation-là qui va faire en sorte que les rides, en fait, vont s'affiner. Puis c'est vraiment une histoire. Là, je suis pas le spécialiste non plus de l'histoire du Botox, mais c'est vraiment une histoire incroyable, ça, parce que ça a été découvert. C'est des ophtalmologistes de mémoire canadiens là, qui ont commencé à l'injecter pour traiter des cas de strabisme, donc où les gens avaient une déviation du regard ou leurs muscles périoculaires étaient trop fort, et donc ils ont commencé à injecter ça, là. Puis là, écoutez, les ophtalmos vont m'écouter, vont dire n'importe quoi, mais bref, ils commençaient à injecter ça pour relaxer ces muscles-là et corriger le strabisme, parce que c'est une indication de Botox, et puis et là, ils se sont rendus compte que leurs patients et patientes, quand ils revenaient, puis qu'ils disaient, c'est beau, vous n'avez pas besoin d'injection, mais là, les patients disaient, non, mais attends un peu, là, j'aimerais ça en avoir d'autres, parce que là, j'avais toutes les rides, puis là, c'est tout parti avec ça.
OK. Je louche plus, puis je suis beau.
Ah, mais non, exact. Et là, c'est comme, attends une minute, il y a vraiment quelque chose qui se passe là, puis écoutez, ça, c'est sûr, c'est des choses que j'ai lues, puis que je me suis fait raconter, mais ultimement, ils ont présenté ça dans les congrès, puis tu sais, ils ont un peu fait rire d'eux autres, là, au final, de dire, on va pas commencer à injecter du Botox ou cette toxine-là juste pour les rides, puis là, tu sais, imagine où c'est rendu aujourd'hui, c'est un monstre, là, cette industrie-là.
Ah oui, alors, complètement. Vous, comme dermatologue, en faites-vous ou c'est plus les esthéticiens et esthéticiennes qui font ça?
Non, en fait, on est formés pour en faire. Moi, personnellement, c'est une chose que j'ai faite pendant quelques années, que je fais quand même moins, mais que j'offre encore comme service, parce que c'est sûr que c'est demandé beaucoup. Mais il y a quand même plusieurs médecins, plusieurs professionnels qui se spécialisent là-dedans vraiment, donc qui en font, qui font pratiquement seulement ça. Okay. Mais ça, c'est pas mon cas. Là. Moi, ça reste à peu près 10% là, de ma pratique. Là. Je suis surtout dans le médical, les cancers de peau et tout. Mais c'est sûr qu'on connaît quand même bien ça. Puis de toute façon, on se fait poser évidemment toutes les questions là-dessus très, très, très souvent. Là.
Dans l'esthétique aussi, là, moi, on dirait que mon algorithme m'a très bien cerné là, sur Internet. Là. Il me pousse plein de vidéos de bobos, puis de gros kystes. Et récemment aussi, des espèces d'injections piquées visiblement dans les varices des gens, dans les cuisses, ils shootent une injection, puis là, tu vois live la varice disparaître. Est-ce que d'un, c'est un scam Internet, puis de deux, est-ce que c'est dangereux, puis est-ce que ça dure, ces affaires-là?
C'est probablement ce que vous faites référence, des agents sclérosants. C'est utilisé pour les traitements des varices depuis je sais pas combien d'années.
Okay.
Je présume que c'est ça. J'avoue que les varices, c'est plus ou moins mon domaine. C'est plus fait en général en clinique esthétique, souvent des médecins de famille, des infirmières qui vont faire ces techniques-là. Est-ce que c'est permanent? Généralement, non. Là, c'est à refaire. Et puis, il peut y avoir des complications comme dans n'importe quelle procédure. Hein, donc, ça reste des injections, il y a des piqûres, donc il peut y avoir des infections, il peut y avoir de l'enflure après. Donc, on a quand même déjà vu plusieurs patients là, qui, suite à des procédures comme ça, ont eu des complications. Mais faut quand même comprendre que généralement, c'est assez sécuritaire quand c'est bien fait. Là.
Est-ce que c'est un indicateur de quoi que la peau nous envoie d'avoir des varices?
C'est multifactoriel, ça veut dire principalement c'est surtout une insuffisance veineuse profonde, là, ce qui veut dire que la veine qui est profonde dans la jambe a de la misère à remonter le sang à cause de la gravité. Puis à ce moment-là, il y a un réseau périphérique qui va se former. Et ce réseau-là, c'est celui-là qu'on va voir plus au niveau de la peau. Okay. Alors, les gens, des fois, pensent qu'en traitant les varices, on va traiter l'insuffisance veineuse, on va régler l'enflure, la circulation, mais c'est pas le cas du tout. Là. C'est vraiment, comme on dit, mettre un bobo sur... pas un bobo, mais un pansement sur un bobo, une plaie, mais ça guérit pas la cause principale qui est l'insuffisance veineuse. Puis évidemment, ben tu sais, il y a toutes les facteurs donc de génétique, d'hérédité. Il y a des gens qui sont plus sujettes à ça. Les femmes enceintes qui ont eu beaucoup de grossesses, etc., évidemment, sont plus à risque également. Donc, c'est très multifactoriel, mais évidemment, c'est très commun.
Mm-hmm. Non, effectivement, puis on n'entend rien qu'en masse, ça, que c'est des complexes, oui. des comment est-ce qu'on appelle ça, donc des complexes.
Des complexes, oui, ouais, bien sûr.
Exact. Mm-hmm. La cellulite?
Oui.
Qu'est-ce qui génère ça?
La cellulite, c'est un relâchement au niveau du tissu sous-cutané. On appelle ça cellulite dans le jargon, mais disons que c'est une condition aussi qui est très, très fréquente là, de consultation où la peau va vraiment créer des espèces de creux, là, si je peux dire, en sous-cutané, donc une lipodystrophie. Et puis, mais ça, c'est dû vraiment, là, encore là, beaucoup de conditions génétiques, les grossesses, mais principalement la génétique. Là. Il y a des gens qui disent comment ça se fait que moi, j'ai autant de cellulite à tel âge, alors que mes amis en ont pas ou autre. Puis, tu sais, principalement, tout le monde en a aussi à certains degrés. Là. Et donc, il y a un relâchement qui se crée, puis les cellules au niveau graisseuses là, protruent ou vraiment s'atrophient, donc ça crée des creux. Alors, écoutez, ça, je peux vous le dire tout de suite, il y a des lasers, il y a des machines qui existent. Encore là, je suis pas l'expert cosmétique de ça, mais c'est extrêmement difficile à traiter. Là.
Ah ouais, OK. Quand on l'a... Ça m'étonne, votre réponse, que ce soit plus génétique que... tout simplement un enjeu de surpoids, ça me surprend.
Non, écoutez, il y a des gens qui vont avoir un poids tout à fait normal ou même plutôt mince, puis vont quand même en développer. C'est certain que si vous avez un surpoids, de l'obésité, ben on vient à nos varices aussi. On est plus à risque de développer ce genre de conditions-là également. Mais encore là, c'est principalement génétique. Puis, me l'avais pas posé, mais disons les vergetures, là, ben ouais. ça en est un autre. Tu sais, il y a des dames qui vont avoir beaucoup de vergetures suite à leur grossesse, et pourtant il y en a d'autres qui semblent ne pas en avoir du tout. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont acheté la crème sur TikTok qui marche bien? La réponse, c'est non.
Quelle surprise! Eh ben.
Donc, encore là, pour les vergetures, c'est pas évident à traiter. Là. Donc, les lasers sont peut-être un petit peu plus efficaces, mais on peut pas vraiment faire disparaître ça complètement. Au moins dire aux gens qu'elles vont quand même diminuer avec le temps. Elles vont blanchir, elles vont... s'amincir, mais vous savez, j'ai pris une traque sur la vergeture, là, mais...
Non, mais c'est correct. Bon. Je vous suis là-dessus, parce qu'il y a bien des gens qui ont des complexes par rapport à ça. Mm-hmm. Ça serait quoi votre meilleur conseil de skincare routine pour une femme qui apprend qu'elle est enceinte, puis qui se dit, hey, moi, là, je suis très heureuse de donner la vie, mais j'aimerais ça avoir une belle peau, puis pas avoir l'air tout frippé à la fin de la grossesse. Ça serait quoi votre meilleur conseil?
Ben, tu sais, c'est des conseils plates parce que c'est des conseils qui sont bons pour toujours. C'est-à-dire garder une bonne hydratation de la peau avec n'importe quelle crème hydratante que vous trouvez qui vous fait bien. Alors, qu'elle soit chère ou pas chère, souvent les ingrédients sont passablement les mêmes, là. Alors, d'en appliquer à tous les jours après le bain ou la douche. Et puis, évidemment, la protection solaire parce que si on parle des femmes enceintes, eh bien, avec les hormones, il y a un degré de pigmentation qui augmente, hein. Donc, les femmes enceintes ont plus de grains de beauté. Il y a une surproduction de grains de beauté et aussi de taches pigmentaires. Donc, si on rentre dans tout ce qui est le mélasma, c'est-à-dire le masque de grossesse, eh bien, si on s'expose au soleil pendant la grossesse, on est beaucoup plus à risque de développer un masque de grossesse. Alors, ça, c'est une condition, évidemment, de consultation qui est extrêmement fréquente.
Okay.
Et pas juste chez les femmes enceintes et pas juste chez les femmes non plus. On en voit chez les hommes aussi. Donc, des fois, les hommes, on a moins tendance à se mettre de la crème solaire, là, mais... Évidemment, quand on se met à développer des taches, et puis même le masque de grossesse, évidemment, c'est pas un masque de grossesse chez l'homme, mais c'est, ça reste le même principe. Les hormones dans le sang, la sensibilité de la peau au soleil créent des taches qui peuvent être très, très difficiles à traiter par la suite. Donc, meilleur skincare routine, c'est toujours la même chose, c'est une crème hydratante et une protection solaire. C'est plate, c'est simple, mais les choses simples souvent fonctionnent.
Mais quand on magasine, là, on se fait envahir de beurre de karité, aloès, vitamineux, céramide.
C'est l'enfer.
Lequel privilégié? Lequel, beurre de karité, c'est partout. C'est un scam?
C'est très bon. Non, ouais. Ça hydrate bien. C'est les céramides aussi, c'est contenu dans l'épiderme normal. Ça va bien hydrater, mais... Là où je débarque, vous savez, c'est comme un peu, vous magasinez, ben, peut-être pas vous, vous magasinez pour votre blonde une sacoche, ben, vous pouvez acheter une sacoche à 80$ ou à n'importe quel magasin grande surface, ou vous pouvez aller en ligne acheter une, je sais pas quoi, là, une Burberry à 8000. Mm-hmm. Ultimement, l'utilité, c'est pas mal la même chose, là. Alors, ça revient un peu au même dans les crèmes, donc... On recommande surtout des crèmes à base de céramide, okay, en général. Mais vous savez, beaucoup de patients disent, écoute, moi, j'ai essayé telle crème de céramide, ça me fait pas. J'utilise le beurre de karité, j'utilise la bonne vieille vaseline le soir sur les pieds, j'utilise n'importe quelle crème en vente libre, la crème O'Keeffe, oui, c'est O'Keeffe, la crème des travailleurs là qui se vend chez au Canac ou dans les quincailleries.
Ouais,
c'est
ouais.
Très, très bon pour hydrater les mains. Puis j'ai beaucoup de patients sur la construction qui l'utilisent. Puis ils jouent juste par cette crème-là. Fait que, tu sais, vous savez, c'est... Faut faire attention. C'est de la surconsommation. On est sur les médias sociaux. On se fait envahir d'annonces ou de commentaires. Mais ultimement, il y a souvent des compagnies derrière ça aussi. Faut pas l'oublier.
Effectivement. Est-ce qu'on devrait d'emblée éviter une crème hydratante parfumée?
En général, c'est un bon point, là, surtout si vous êtes sujette à faire de l'eczéma ou la rosacée, donc des problèmes de peau là, où la peau va être plus sensible que la normale. Donc, éviter les parfums, c'est toujours une bonne idée. Donc, okay, une crème hydratante pour peau sensible. Là. Alors, souvent, évidemment, mes patients ont des problèmes de peau, donc ça va sûrement souvent être là que je vais les diriger. Après, si vous avez une peau qui a une tendance plus acnéique, ben là, vous pouvez aller vers des nettoyants qui sont plus peau grasse, peau avec imperfection. Donc, ces produits-là vont avoir de l'acide salicylique ou certains produits un peu plus asséchants, mais justement pour réduire un peu la concentration de sébum sur la peau. Puis donc, c'est des produits qu'on peut se procurer si on a une peau grasse, si on a tendance à faire un peu plus de boutons. Ben déjà, c'est des produits en vente libre qui peuvent aider un petit peu, là, qui peuvent faire une partie du chemin. Et puis après, ben, si ça continue, ça augmente, ben là, il y a d'autres choses à faire, évidemment, en médecine.
Là, vous venez de me faire une belle passe à la palette au niveau des boutons. Moi, je suis quelqu'un qui fait quand même... J'en ai quand même beaucoup moins qu'avant. Là.
Mais moi aussi, puis à 34 ans, puis ça me dérange.
Où sont vos boutons, monsieur? Dites-nous où sont
vos boutons. Dans le dos un peu, monsieur.
beaucoup d'en face. Mais j'ai la tendance à les éclater, les boutons.
Ouais.
J'aime ça les péter.
Oui.
J'aime ça quand j'en ai plus. Mais je me fais tout le temps dire, non, faut pas te mettre des boutons, des boutons. Je peux-tu les péter, mes boutons?
Vous pouvez faire ce que vous voulez.
Oui. Mais est-ce que c'est recommandé ou pas?
Ouais, c'est pas recommandé pour la simple et bonne raison que ultimement, péter un bouton, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre façon de le dire, ça va augmenter l'inflammation sous-cutanée, ça crée d'autres boutons, et c'est pas juste ça, ça retarde la guérison. Puis on voit beaucoup de gens qu'on appelle qui ont une acné qu'on appelle excoriée, ça veut dire des gens qui ont une acné qui persiste parce qu'ils taponnent trop.
Okay.
Et ça fait même partie d'une condition, là on va un peu loin, mais ça peut même aller jusqu'à la condition psychiatrique où c'est vraiment devenu une espèce de un tic nerveux ou un évacuateur de stress où il y a certaines personnes qui sont pas stressées mais qui vont libérer leur stress en manipulant leur peau, donc ce qu'on appelle le skin picking, là. Alors, bref, manipuler ces boutons, les taponner, les pincer, c'est pas une bonne idée. Si vous avez des têtes blanches, on comprend, là, tout le monde, on a un bouton avec une tête blanche.
C'est ce que j'allais vous demander. Ça. Quand le bouton a une tête blanche, c'est un indicateur de il est rendu où dans sa vie, ce bouton-là?
Oui, il fait son petit bout de chemin. Là, ouais. ultimement, il va guérir tout seul. Mais bon, on comprend, on n'aime pas ça avoir une tête blanche. Donc, ce que je fais en général ou ce que je recommande, c'est juste de désinfecter. Vous prenez une aiguille, une petite aiguille que vous désinfectez, puis vous faites juste rupturer la tête blanche. Pas besoin de peser, pincer. Vous rupturez la tête blanche, vous l'enlevez avec un petit mouchoir, puis c'est tout. Là.
Mais le pus, ouais, en tant que tel, là, est-ce que c'est un signe d'infection ou de guérison qui opère? T'sais, ça nous indique quoi?
Non, c'est des neutrophiles, donc c'est vraiment votre système immunitaire qui font leur job, donc qui essayent de contenir l'inflammation puis l'infection avec la bactérie là, qui est sur la peau. Et puis, donc, ça veut juste dire que votre système immunitaire fait sa job, c'est juste que des fois, il fait trop bien sa job, puis là, ça fait un bon bouton, puis ça, bon, c'est achalant. Fait que, donc, ultimement, vous... pas trop taponné, donc on dit là, prenez une petite aiguille, désinfectez délicatement, vous retirez la tête blanche, puis ultimement, il y a des esthéticiennes aussi qui sont très bonnes pour nettoyer la peau, extraire les comédons, les points noirs, donc quand c'est fait de façon professionnelle, ben en général, il y a moins de risques d'aggraver la chose, mais tu sais, il y en a beaucoup là qui consultent, puis vraiment ultimement, ils ont encore des boutons, puis vous n'êtes pas les seuls là, dans votre trentaine ou autre à avoir de l'acné. Là, c'est très, très, très fréquent. Les gens, on pense que l'acné, ben là, j'ai 18 ans, je peux voter, fait que j'imagine que j'aurai plus d'acné, ben, sinon ça marche pas de même.
Si seulement.
Oui, c'est ça, exactement. Puis ça, il y a une grande composante génétique aussi. Là. Si vos parents ont fait ta cutane ou s'il y en a dans votre famille, vous êtes évidemment plus à risque là, de faire de l'acné, mais... Bref, tout ça pour dire souvent les gens consultent, mais ultimement, il y a une grande problématique de manipulation excessive. Là. Donc,
Et d'un point de vue, je change de sujet complètement, d'un point de vue dermatologue, c'est quoi votre point de vue sur les tatouages?
Oui, c'est une question qui revient, mais j'ai pas vraiment d'opinion sur le sujet. Je pense que c'est... Tu sais, oui, il peut arriver des conséquences à se faire tatouer sur la peau, évidemment. Là, on a eu... évidemment, beaucoup de cas. Il y a quelques années, il y a eu même une épidémie d'infection dans la ville là, où bon, il y avait une encre qui était contaminée. Puis donc, ça a donné des problèmes à pas mal de monde. Mais tu sais, ça reste quand même des exceptions. Là. Donc oui, les risques d'infection. Il y a quand même des risques d'allergie aussi. Là, tu sais, le risque est faible, mais ça arrive. Hein. Puis quand ça tombe sur nous, ben c'est pas agréable. Mais
le fait de piquer dans deuxième couche de peau, parce que je vais vous, tu sais, c'est des questions. Moi, j'ai un autre travail et je suis artiste tatoueur.
Oui.
Fait que c'est pour ça que je vous posais la question. Puis sur le long terme, le fait de piquer dans deuxième couche de peau, qu'il y ait de l'encre qui soit placée là, c'est pas un problème?
Je penserais pas, non. Écoutez, je n'ai pas fait de recherche là-dessus, mais honnêtement, je pense pas que... Il n'y a pas vraiment de problème. L'encre reste là, puis c'est tout. Là, t'sais. Donc, c'est plus... Moi, j'ai absolument rien contre ça. Au contraire, j'en vois des très beaux. Mais ultimement, c'est plus le risque. Moi, écoutez, vous comprenez que je vois ceux-là. Soit ils viennent me voir pour d'autres choses, puis ils ont des tatouages. Ou bien ils viennent me voir parce qu'ils ont des réactions au tatou.
Des grosses infections, ben oui.
Ouais, c'est ça, exact. Donc, tu sais, ça peut arriver, mais vous savez, ça peut arriver avec d'autres procédures aussi. Là. Donc, je suis pas du tout fermé. Même, vous regarderez, il y a un dermatologue américain, il s'est fait tatouer, mais carrément de la tête aux pieds. En fait, du cou aux orteils. Là.
OK.
Puis, il se fait vraiment, là, je pense, c'est une jambe. Il s'est fait tatouer par une Montréalaise, je pense, une jambe au complet. Puis, en tout cas, un tatoueur par pays. De chaque partie de son corps. Là.
Okay.
Donc, le seul problème que je pourrais voir, par contre, c'est de tatouer par-dessus les grains de beauté, évidemment.
Ben, c'est ce que j'allais vous demander. Là, vous me devancez, parce que quand on a un mentorat, là, dans les premières affaires qu'on apprend, là, c'est de ne pas tatouer sur des grains de beauté qui sont particulièrement texturés ou bien sur des points rouges. Puis des fois, c'est plate parce qu'ils sont un peu dans le chemin puis on hésite, on est comme, ils sont dans le chemin du projet, mais en même temps, ce qui nous est répété, règle générale, c'est que ça peut donner le cancer. Est-ce que c'est exagéré? Puis...
Pas tant que ça peut donner le cancer, c'est plus que ça va masquer le cancer de peau s'il apparaît. Okay. Vous avez un grain de beauté, vous mettez de l'encre noire par-dessus, oubliez ça. Là. C'est sûr que si ça devient un mélanome avec les années ou s'il y a un mélanome qui se développe dans cette partie-là, ça va être beaucoup plus difficile, évidemment, à détecter. C'est probablement l'argument majeur de pourquoi, des fois, les dermatos, on peut être un peu réticents. C'est on voit des gens qui sont tatoués noir, c'est bien, mais ultimement, s'il y a un cancer de peau qui arrive là, comment vous voulez qu'on le détecte? Là, des fois, déjà, les gens sont pas tatoués, puis ils ont de la misère à les détecter, ou ils attendent, ou ils pensent que c'est normal. Puis finalement, c'est des mélanomes, c'est des taches qui évoluent rapidement. Donc, c'est surtout le souci principal, je pense. Mais tu sais, vous faites bien de le dire. Au moins, si ça vous est mentionné dans votre mentorat, c'est déjà très bien. Là,
c'est drôle parce que c'est vraiment enseigné comme c'est ça qui est ça, puis pose pas de questions, puis c'est ça.
Ouais, c'est ça. Ben, tant mieux. Écoutez, je trouve ça bien. Puis même quand vous faites le tatouage, si vous remarquez des grains de beauté épouvantables, vous pouvez le mentionner à votre client. Puis tu sais, on a beaucoup de ça aussi. Là. Mon tatoueur m'envoie ici, ma coiffeuse. Donc, c'est bon parce que vous êtes proche des gens aussi. Là.
Effectivement. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de tatouer sur des cicatrices?
C'est les mêmes. J'aurais pas rien de plus à dire. Là. Est-ce que le résultat est aussi beau? Honnêtement, je l'ignore. On s'est rendu là, mais c'est encore une fois la même approche là, qu'il faut avoir. Là.
OK. Ouais. Vous parliez de grains de beauté. À quel moment, hors tatouage, là, juste dans la vie, à quel moment un grain de beauté devient inquiétant dans la vie?
Oui, ça, c'est la question à 1 million. Hein? Donc, quand est-ce qu'on s'inquiète de notre grain de beauté? Là? Vous connaissez peut-être la règle ABCDE, là, donc asymétrie. Donc, on regarde le grain de beauté, est-ce qu'il est symétrique d'un bord et de l'autre, de haut en bas? La bordure, donc le B pour bordure, est-ce qu'il y a une bordure qui est lisse, bien délimitée, vous pouvez le couper au couteau, ou bien il est vraiment flou, il s'étend? La couleur, donc plus il y a de couleurs, plus c'est, ou du moins, plus ça peut être pertinent de faire vérifier. Mais vous savez, 2 degrés de brun, ça va, mais quand on est rendu avec j'étudie 2 degrés de bleu. Non, c'est peut-être un peu... 2 degrés de brun, excusez-moi.
J'ai
un panneau bleu d'en face. Donc, 2 degrés de brun. Mais là, quand on est rendu avec du bleu foncé, du rouge, du noir, évidemment, ça va pas. Là. Le D pour diamètre. Alors, c'en est un qu'on dit en général. T'sais, les gens viennent me montrer des petits grains de beauté vraiment millimétriques ou un demi-millimètre. Écoutez, c'est trop petit. Là. C'est sûr qu'il y a des exceptions, là, mais faut comprendre qu'il y a un petit point comme une mine de crayon. Là, c'est extrêmement petit. Donc, faut voir à ce moment-là le E qui est l'évolution. C'est le plus important, à mon avis, puis en fait, à la vie en général dans notre domaine. C'est qu'au final, votre grain de beauté, est-ce qu'il a évolué? Mais un patron à moi me dirait, Joël Claveau, qui est le spécialiste des lésions pigmentaires à Québec et dans le cancer de peau, qui nous disait toujours, les patients disent n'importe quoi, écoutez-les pas. Mais évidemment, c'est un numéro, là, il n'était pas vraiment sérieux, mais tout ça pour dire que ça arrive souvent où les gens disent, non, cette grain de beauté-là, je l'ai depuis que je suis tout petit, il n'y a pas de problème, mais que finalement, c'est un mélanome. Là,
okay,
donc,
okay.
Faut quand même en prendre et en laisser, mais généralement, les gens sont capables de dire ce grain de beauté-là, quand même, il n'a pas bougé puis il est stable. Donc, c'est vraiment les critères à vérifier. Souvent, on pense qu'un grain de beauté qui est bombé, justement un peu texturé, c'est problématique, mais évidemment, il y a des exceptions. Mais généralement, quand ils sont ressortis bombés, ils ont des poils dedans. Souvent, ce sont des grains de beauté qui sont bénins. Parce que le poil, dans un cancer de peau, il est complètement détruit. Il n'y a aucun poil qui survit à ça. Là.
Okay.
Alors, c'est un signe en général que le grain de beauté est bénin. Donc, un cancer de peau, c'est plus une tache. On ne peut pas y toucher vraiment. C'est comme une tache d'encre sur du papier blanc. Là. Donc, tache d'encre noire, très foncée, très irrégulière. Alors, c'est ça surtout qui va accrocher notre œil.
OK. Il y a un auditeur qui nous pose une auditrice qui nous pose une question. Qu'est-ce que vous pensez et l'épilation au laser et le détatouage? Est-ce que le laser en tant que tel peut générer un trauma à la peau qui pourrait amener des conséquences sur le long terme?
Bien, encore une fois, c'est une très bonne question, puis ça nous est souvent posé. L'épilation, encore là, c'est une technique qui est faite, je ne sais pas combien de fois par jour, mais c'est évidemment très, très, très populaire et quand même, c'est quand même relativement sécuritaire. Est-ce qu'il peut arriver des conséquences? Évidemment, les brûlures existent, on en voit, des lésions pigmentaires ou des lésions blanches qui vont rester souvent très longtemps ou même à vie. Donc, des infections locales, alors ça peut arriver. Quand c'est fait correctement, quand le patient n'a pas eu de complications, est-ce qu'il peut avoir un effet négatif à long terme, pas vraiment. Puis pour ce qui est du détatouage, eh bien, je pense que les lasers sont quand même de plus en plus efficaces là-dessus. Mais faut quand même rester réaliste aussi. Ça reste difficile à enlever les tatouages, même si, comme je vous dis, les derniers lasers sont quand même efficaces.
Ça prend beaucoup de sessions.
Beaucoup de sessions. C'est quand même onéreux. C'est très douloureux aussi.
Oui.
Donc, en tout cas, bref, on entend beaucoup parler. Alors, puis ça dépend aussi des couleurs. Là. Alors encore là, je suis pas l'expert de ça. J'ai pas le laser moi-même pour faire ça. Là. Mais ultimement, ça reste quand même difficile. Mais c'est au moins une possibilité qu'on a aujourd'hui pour retirer un tatouage qu'on peut regretter des fois quand c'est fait dans la jeunesse.
Ben oui, exact. Hein. Le nom de notre blonde, là, c'est jamais une bonne idée.
Non, exactement. Ça dépend où on le met, mais effectivement, c'est jamais une bonne idée.
Tantôt, on parlait d'eczéma rapidement. Puis tu sais, c'est drôle, ma plus jeune a eu de l'eczéma. Puis notre façon à de l'eczéma, oui, chez ma petite de 6 ans, ça a été de couper les produits laitiers. On pense que c'est, oui, vraiment ça qui a réussi. Sur le texto, oui, il y a un auditeur qui nous demande s'il vous plaît, parlez à votre dermatologue du Dupixent, un, oui, médicament à injection pour traiter l'eczéma atopique. Qu'est-ce que vous en,
oui,
pensez?
Oui, ben ça me fascine parce que les gens nous parlent souvent du Dupixent. Alors, ça arrive pas avec tous les médicaments, mais celui-là particulièrement, on s'en fait parler souvent. C'est un médicament en injection qui a été développé puis approuvé là et maintenant commercialisé depuis plusieurs années pour l'eczéma, donc ce qu'on appelle la dermatite atopique. Alors, l'eczéma qu'on fait souvent depuis l'enfance, associé au rhume des foins, l'allergie au pollen, aux animaux. Et puis, c'est un médicament maintenant qui est disponible et donc qui est quand même très efficace là pour traiter l'eczéma. C'est en injection, donc les gens vont se faire eux-mêmes souvent leur injection, donc sous la peau, hein, c'est sous-cutané. Et puis, c'est aux 2 semaines. Donc, je dirais quelqu'un qui a un eczéma sévère, ça prend quand même des critères, évidemment, pour que ce médicament-là soit remboursé, parce que les médicaments qu'on appelle les médicaments biologiques, là, ou donc les médicaments qui ont été élaborés en laboratoire et où c'est très, très, très spécifique, hein, ça attaque pas le corps au complet, ça attaque vraiment les cellules de la peau responsables de l'eczéma. Alors, c'est très, très ciblé.
Okay.
Et bien évidemment, ces médicaments-là sont très dispendieux. Donc, il y a des critères là, bien précis pour pouvoir obtenir ce médicament-là. Mais donc, si vous avez un eczéma sévère, si vous avez un eczéma qui atteint le visage, les mains, les organes génitaux, les pieds, si vous avez essayé beaucoup de crèmes de cortisone prescrites, vous pouvez être éligible au Dupixent. Évidemment, il faut voir chaque personne. Là, mais évidemment, c'est un médicament qu'on prescrit régulièrement maintenant parce que c'est quand même en général très efficace. Et il est surtout efficace aussi dans la démangeaison. Donc, même si c'est pas tout le monde qui va être complètement clairé de leur eczéma, souvent, là, les gens vont dire non, j'ai vraiment, oui, il me reste l'eczéma, mais la démangeaison a complètement arrêté. Ça, c'est vraiment un bon argument parce que c'est la démangeaison, c'est souvent ça qui nuit évidemment à la qualité de vie. Dans
ben
l'eczéma.
Oui, ben oui, c'est donc, ça revient souvent. Est-ce, ouais, qu'on peut utiliser ce médicament-là pour le zona aussi? Parce que moi, j'ai un ami qui a eu le zona, puis c'était de la torture au niveau de la démangeaison. En,
oui,
fait, il me disait que ça. Démangeaison, puis une sensation aussi de lave qui lui coule sur le dos.
Oui, non, c'est ça, exact. Brûlure, douleur. Donc, non, ça ne peut pas être utilisé dans le zona, mais vraiment pour les cas d'eczéma sévère. C'est un très bon médicament, le Dupixent. Mais encore là, il faut voir avec le médecin, il faut passer par certaines étapes pour ça. Mais c'est une option qu'on a maintenant qu'on n'avait pas il y a plusieurs années. Donc, okay.
Ouais. On parle de choses qui piquent. Moi, je suis quelqu'un qui va beaucoup dans la nature. Puis chaque, oui, été, c'est un immanquable. Je me pogne de l'herbe à puce, puis je,
oui,
fais des réactions épouvantable à chaque,
ouais,
fois.
Ouais, ouais.
La c'est première l'enfer. Fois que j'en ai pogné, il m'avait prescrit de la crème de cortisone, justement.
Oui.
Mais j'avais fait une réaction allergique à la crème en plus. Que je me suis ramassé complètement dans un bordel infernal. Avez-vous des trucs pour ça autre que se mettre des culottes longues?
Ben, d'abord, être capable de reconnaître la plante.
Ouais.
Ça, c'est vraiment la. Ben, c'est important, tu sais. On rit parce que. On pense connaître ça, mais honnêtement, c'est pas nécessairement toujours facile. Faut voir une plante qui est pas très haute, avec 3 feuilles au bout de la tige, et les feuilles sont ciselées, un peu sont dentelées. Donc, c'est pas tout le monde qui va réagir non plus, et souvent c'est à retardement. Alors les gens,
oui,
des fois, font pas le lien tout de suite. Hein. La première exposition, la première fois qu'on réagit, c'est souvent un retardement. Ça peut même aller jusqu'à une semaine après. Là. Donc, les gens comprennent pas nécessairement, mais ils se rendent pas compte. Ils oublient qu'ils sont allés faire pipi sur le bord de la 40 il y a une semaine, parce que ça arrive fréquemment. Là. Et puis c'est là qu'ils ont attrapé leur baptisme. Des fois, en même temps, on questionne les gens puis on trouve pas nécessairement d'exposition claire. Mais en général, effectivement, c'est une éruption qui peut être bien achalante. Donc, encore là, on dit bien reconnaître la plante, c'est sûr, garder évidemment les pantalons longs, les chandails longs. Si on désherbe, ben on se met des gants, puis on essaye de faire attention ou d'appeler des professionnels. Puis ben, si ça vous arrive, ça reste quand même encore un traitement de bonne vieille cortisone. Donc, vous pouvez commencer par aller en chercher une en vente libre, donc l'hydrocortisone matin et soir. Puis faire des compresses aussi, ça peut quand même couler. Là. Je sais pas si c'était votre cas,
mais
ça,
mais justement,
ça pique, ça coule.
J'avais l'impression des fois que le genre de liquide qui coule, là, le genre de pu qui coule de là, quand je me grattais, me recontaminait puis empirait.
Ouais.
C'est quelque chose de possible ou c'est dans ma tête?
Non, j'aurais pas dit c'est dans votre tête, mais dans le sens que j'aurais dit gratter une lésion, évidemment, ça peut l'empirer, mais le liquide est pas contagieux. T'sais, vous allez pas répandre ce liquide-là puis vous infecter, dans le fond, entre guillemets. C'est vraiment une réaction immunitaire là, très sévère, qui crée vraiment les bulles, le liquide, ça suinte. Mais c'est vraiment là, la contamination se fait vraiment avec le contact de la sève, en fait, là, de la plante. Là.
Okay.
Donc c'est pas. Mais tu sais, des fois, comme je vous dis, ça, écoutez, des fois, c'est un feu de camp. On fait brûler des branches. Finalement, il y avait de l'herbe à puce. Des fois, c'est le chien qui se promène partout, qui revient. On flatte le chien, il se colle sur nous. Ça y est, on est contaminé. Donc, ça peut venir un peu de partout. Fait que c'est pour ça que c'est important de savoir, sur notre terrain ou en proximité, si on va prendre une marche sur le bord du fleuve, il y en a tellement qu'on en voit tellement. C'est vraiment, vraiment très fréquent.
Et deux petites questions en terminant en ce qui me concerne. On va permettre à une auditrice de dormir ce soir. Ou peut-être pas, peut-être que vous allez la faire stresser comme c'est pas possible. Là, mais elle dit,
j'endors tout le monde.
elle dit, je me suis fait enlever un grain de beauté et il a repoussé. Ouais. Est-ce dangereux?
Ouais, écoutez, c'est sûr, j'ai pas beaucoup d'informations.
C'est vrai, hein, j'avoue que pour décider de vie ou de mort, c'est peu d'infos, j'avoue.
Non, écoutez, c'est sûr qu'en général, retirer un grain de beauté puis que ça repousse, c'est très possible. Est-ce que ça se peut que ce soit un grain de beauté tout à fait bénin puis qui est tout gentil puis qui a repoussé? C'est fort probable. Est-ce que ça se peut que c'est... Mais en général, vous pouvez la rassurer pour dire un grain de beauté qu'on enlève, ça dépend comment ça a été enlevé. Ça dépend c'est quel type de grain de beauté, mais c'est toujours possible que ça revienne. Ça reste que les grains de beauté, c'est comme des plantes qui font des racines. Donc, on coupe la plante, on pense avoir tout enlevé, mais ça se peut qu'il reste une petite racine ici et là. Mais encore là, les critères ABCDE s'appliquent aussi. Là. C'est très foncé, c'est irrégulier. C'est toujours bon d'aller consulter par prudence là, pour être certain si tu es problématique ou pas.
Également, dans les boutiques de santé, de produits de santé, suppléments de santé, ils se vendent énormément de suppléments de collagène et ils vendent ça d'un point de vue marketing comme étant bon pour la peau. Est-ce vrai ou on est vraiment dans le micro-détail? Là? Est-ce que c'est vraiment bénéfique de boire un shake avec du collagène dedans?
On appelle ça, c'est plutôt de la pseudo-science, là. Alors, comme je dis toujours aux gens, j'ai absolument rien contre ça, mais il faut comprendre que les évidences scientifiques là-dessus sont, je vais pas dire nulles, je vais être généreux, mais il y en a pas beaucoup, là.
Okay.
Alors, on peut pas vraiment recommander ça, du moins encore, là, comme dermatologue.
On est mieux que la crème hydratante.
On est mieux avec la crème hydratante, une bonne hygiène de vie et surtout se protéger du soleil. Encore là, c'est toujours les mêmes rengaines, mais c'est ça qui est bien prouvé. Puis on le sait, les gens qui ont pris beaucoup de soleil, c'est eux que leur peau est le plus endommagée avec le temps. Là. Donc, j'ai rien contre les suppléments de collagène, mais les preuves sont vraiment très, très minces. Là.
OK. Le délai avant d'avoir un rendez-vous au public, moi, j'entends tout le temps, surtout en dermato, là, c'est long, puis les gens, ils se font du mauvais sang, puis tout ça. Quand on va au privé, comme où vous travaillez, on peut être vu dans un délai de combien de temps, règle générale?
Peut-être qu'actuellement, on est, disons, en général 2 semaines. C'est certain que je dis toujours aux gens, regardez, vous avez une urgence épouvantable, vous savez pas où aller, vous dormez plus, ben vous appelez, vous insistez, puis on va essayer de vous voir la journée même ou à peu près. Là.
OK.
C'est à peu près ça. Mais voilà.
OK. Et on peut s'attendre, j'ai peut-être une question, je veux pas vous mettre mal à l'aise, mais quand on va au privé, on peut s'attendre à devoir déplier combien pour une consultation?
Une consultation, c'est 300 $.
Okay.
Et puis après ça, il y a des frais là si on a des procédures. Donc on veut faire brûler telle affaire, on veut retirer tel ou tel grain de beauté, ben là il y a des frais. Mais en général, la consultation donc est de 300. Puis évidemment, ben c'est le diagnostic, c'est la prescription du traitement. Donc voilà. Écoutez, on prend le temps, on écoute les gens, puis on essaie de faire notre travail le mieux possible pour que les gens soient contents, parce qu'on sait que au public, regardez, tout le monde est débordé. La demande en dermato, c'est infini. Là.
Ah, des fois, on entend des histoires épouvantables de « ben oui, ça fait 18 mois que je suis à la liste d'attente. » 18 mois, c'est long.
Non, c'est long, mais regardez, quand même, en général, quand vous avez une lésion qui est inquiétante, vous êtes au public, souvent ces gens-là vont quand même passer rapidement. Il faut quand même garder ça en tête. Là.
Okay.
Les gens qui ont souvent des cancers de peau graves ou autres, en général, sont passés rapidement. Mais tout le monde fait son possible pour voir les gens le plus tôt possible.
Super. Eh bien, docteur Doré, encore une fois, un gros merci.
Merci à vous deux. C'est super le fun.
Toujours le fun de vous parler. Vous êtes un de mes intervenants préférés. Puis à un moment donné, ce serait le fun de vous recevoir en studio un bonsoir. Ce serait cool.
Ben oui, la prochaine fois, avec plaisir. Puis j'amènerai plein de crèmes. On va s'amuser.
Ouais, on testera les crèmes. Une soirée entre hommes qui testent des crèmes. Hey, merci beaucoup encore une fois.
À la prochaine.
On vous écrit pour chez Dermago si on veut aller vous voir.
Oui,
merci beaucoup.
C'est gentil. Bye-bye.
C'était le docteur Marc-André Doré qui est dermatologue chez Dermago.
Très, très cool.
J'aime ça, ces entrevues-là. Parce que, tu sais, aussi, je pense que ça peut parler à bien des gens parce qu'on a comme un peu tout de la peau, là, tu sais.
D'après moi, oui.
Ouais, fait que j'ai essayé de changer parce qu'on l'avait reçu l'année passée puis on avait parlé énormément des coups de soleil, mais là, tu sais, je pense qu'on le sait, là, que quand t'es rouge comme un homard, que tu te magasines un cancer de la peau. Fait que j'ai essayé de trouver des alternatives. Puis merci pour vos questions. Vous avez encore été hyper proactif puis présent pendant l'entretien. Fait que très cool. All right, petite pause. L'autre côté de la pause, my man, Dan Carosella.
Yeah.
Le Space Cast.
Avec JF Blais et Louis Gauvin.
Radio X.